Ce matin, j'aimerais parler de notre bon Père Céleste, si vous le voulez bien. Nous allons aller dans ce contexte de Jean chapitre 13 et Jean chapitre 14, où Jésus a, dans ce passage, il nous est relaté que Jésus a lavé notamment les pieds des disciples, qu'il a partagé le pain et le vin avec eux. Il a annoncé notamment la trahison de l'un des leurs. Il a annoncé sa mort prochaine, même si les disciples ne saisissaient pas complètement l'étendue de ses paroles. Et s'ensuit tout un échange entre Jésus et les disciples. Bien sûr, tout cela suscite des questions. Il y a ceux qui sont habitués à poser des questions, et vous voyez de qui je veux parler particulièrement, de ceux qui réagissent rapidement, Pierre notamment, mais il n'est pas le seul. Dans ce passage, à réagir, d'autres réagissent également. Et on peut ressentir à la fois du trouble, des questions, beaucoup d'émotions autour de tout ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est l'occasion notamment pour Jésus, à nouveau, eh bien, de les enseigner. Nous allons lire Jean chapitre 14 à partir du verset 1er. Voilà ce que nous lisons, que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je viendrai, et que je vous aurai préparé une place, pardon, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais ? Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Amen. » Jésus parle, et Jésus a parlé de son Père céleste. À de nombreuses reprises au cours de son ministère, il a parlé de l'amour du Père, du royaume du Père, de la volonté du Père, de la prière à adresser au Père, qui est probablement la prière la plus connue à travers le monde, avec le « Notre Père ». Ayant entendu parler du Père, les apôtres également ont enseigné et écrit à propos du Père. Nous sommes aujourd'hui dans ce que l'on appelle, comme je le disais tout à l'heure, ce jour qui a été marqué dans le calendrier de la fête des Pères. Alors si on sait qu'en France, cela a été institutionnalisé dans les années après-guerre, même si autrefois on fêtait aussi déjà les patriarches, cela a été fait, comme vous le savez, dans ces années après-guerre, à des fins commerciales. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus noble l'origine. Elle remonte au début du siècle dernier, où il a été question notamment de rendre hommage à un père qui a élevé seul ses 6 enfants après le décès de son épouse. Voilà un petit peu comment les choses, petit à petit, se sont mises en place. Et en même temps, si c'est vrai, on met en avant le courage d'un père pour avoir élevé, tout en travaillant, 6 enfants, on pourrait aussi se faire la réflexion, combien de mères ? Combien de mères ont élevé seules leurs enfants, tout en travaillant ? Tout au long de leur vie, sans se plaindre, mais en se sacrifiant pour chacun d'entre eux, afin de leur assurer aussi un avenir. Dans notre langage, nous parlons souvent du Dieu pluriel, Père, Fils, Saint-Esprit, de Jésus-Christ et de son œuvre. Nous, les pentecôtistes, nous aimons aussi rappeler l'œuvre et le travail du Saint-Esprit parmi nous. Mais le Père est peut-être à certains moments celui qui est le moins bien cerné, celui dont on s'arrête le moins, on l'inclut dans ce Dieu pluriel, sans s'arrêter parfois sur sa personne. Alors on peut y voir peut-être plusieurs raisons. Est-ce à cause de la comparaison entre nos pères terrestres, avec tous les défauts qu'ils peuvent avoir, et quand je dis cela, je ne pense pas simplement à mon propre père, bien sûr, je le suis moi-même, et je m'inclus aussi dedans avec tous les défauts que nous avons, nous les pères. Tout ce qui a été, tout ce qui n'a pas été, tout ce qu'on aurait aimé mieux faire, et la comparaison avec ce Père céleste. Tous ces contextes de famille que nous connaissons aujourd'hui, de ce qu'on appelle la famille dysfonctionnelle aujourd'hui. Mais nous savons qu'en Dieu, nous sommes appelés à retrouver ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Nous savons que quand Dieu a fait les choses, il les a fait bien. Rappelez-vous la joie de la communion qu'avaient Adam et Ève avec le Seigneur. Et combien il souhaite que les uns et les autres, nous puissions retrouver cela. C'est peut-être pour plusieurs d'entre nous qui avons peut-être connu le Père jamais disponible, absent la plupart du temps, le Père fouettard, où le moindre chose est sa part au quart de tour, même si aujourd'hui, attention, il ne faut plus toucher à rien. Le Père qui a trahi, le Père qui a peut-être abandonné, déserté, le Père qui a peut-être aussi abusé. Ce sont parfois des enfants qui ont entendu ces discours d'enfants non désirés. C'était pas le moment. Et puis, en gros, tu es arrivé. Oui, mais enfin, c'est pas de la faute de l'enfant. L'enfant peut être non conforme aux exigences des parents. Et il y a parfois une telle pesanteur, un tel poids sur les enfants parce qu'ils doivent être dans l'élite. Et comme j'aime à le rappeler parfois à certains, s'il y a une moyenne, ça veut dire que de temps à autre, il y en a bien sûr qui sont au-dessus, et pas forcément dans tous les domaines, mais dans certains domaines, ils sont au-dessus. Mais s'il y a une moyenne, ça veut dire qu'il y en a aussi qui sont parfois en dessous. Et ça ne veut pas dire que dans tous les domaines, ils sont en dessous non plus. Chaque enfant a ses particularités, et nous devons simplement les aider à trouver leur chemin dans la vie. Il y a de telles exigences, de tels poids parfois, sur les enfants. Alors, dans ces échanges qu'il y a eu avec Pierre, avec Thomas et puis Philippe, Thomas va notamment dire « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus va lui dire « Eh bien, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Alors Philippe, lui va s'en mêler. Eh bien, alors montre-nous le Père. Voilà celui qui a déduit les choses. Un petit peu comme ces théorèmes mathématiques, si cela fonctionne et si on a telle et telle chose, alors le résultat sera ça. Eh bien, alors Philippe, lui, il va directement dire, alors montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et Jésus va lui dire, mais il y a si longtemps que je suis avec vous. Toutes ces années, tous ces moments de partage. Et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Alors, nous savons que Jésus n'a rien fait de lui-même sur la terre. Il était sans cesse en relation, en communion avec son Père céleste. Toutes les paroles qu'il a pu prononcer, toutes les actions qu'il a pu faire l'étaient en conformité avec le plan du Père, avec ce que le Père lui disait, avec, entre guillemets, ce qu'il lui chuchotait à l'oreille. Il était en pleine communion, en plein accord avec le Père. Il a dit, il a fait tout ce que le Père donc lui a prescrit d'annoncer. Il l'a fait jusqu'au bout, à tel point que Jésus a pu dire, « Moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. » Alors les disciples ont eu l'exemple d'un fils parfait avec un père parfait. Alors que nous, des pères imparfaits avec des enfants imparfaits. Alors si Philippe va argumenter avec Jésus. Jésus va interpeller Philippe. Et il veut l'interpeller pour lui dire, mais si tu me connais, alors tu vas connaître le Père. Tu vas connaître l'amour du Père. Tu vas connaître la présence de ce Père merveilleux. Et il rappellera, Jésus rappellera encore qu'il ne nous laissera pas orphelins. Merci Seigneur pour toutes celles et ceux qui ont été en quelque sorte recueillis par le Seigneur, de toutes celles et ceux qui sont venus dans la présence du Père. Merci Seigneur pour toutes celles et ceux qui sont venus, ces enfants d'adoption, alors que nous étions perdus, alors que nous étions errants, alors que nous étions séparés. Il nous a recueillis, béni soit le Seigneur. Alléluia. C'est bon de voir que le Père a ouvert grand ses bras pour nous accueillir les uns et les autres. Et quand bien même quelques-uns n'auraient pas eu l'amour d'un Père, ici-bas, sur cette terre, n'auraient pas eu une relation avec un Père qu'ils auraient aimé avoir, eh bien, nous trouvons dans notre Père céleste celui, eh bien, qui est capable de satisfaire notre cœur. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Je me souviens de ce petit papy lorsqu'on était à Albi, papy Yves. Papy Yves, c'est quelqu'un qui a grandi dans la rue, qui a été même recueilli à un moment donné de sa vie par des prostituées qui l'ont élevé, donné à manger. Je ne veux pas trop parler d'éducation, mais en tout cas, ils l'ont recueilli. Pupille de la nation, sans père ni mère. Il a grandi et est devenu un vagabond qui se saoulait allègrement, qui volait. Mais à un moment donné, il a rencontré son Seigneur et qui a fait de lui un homme nouveau, qui l'a transformé. Cet homme s'est marié, cet homme a exercé le métier de cuisinier tout au long de sa vie. Il a été, lorsqu'il priait, il priait son papa du ciel, lui qui n'avait pas connu son père terrestre, lui qui a été délaissé, abandonné, a trouvé en Dieu un refuge. Et toutes ces années, toute sa vie, toute l'énergie qu'il a pu avoir, ça a été pour aller dans la rue, pour témoigner aux personnes, témoigner au SDF, témoigner aux jeunes dans la rue le mercredi après-midi sur les bancs là, d'une place et puis d'un endroit où beaucoup sont là, d'aller leur parler de Jésus. Les gens connaissent Papy Yves là-bas parce que Papy Yves, il a trouvé son Père Céleste qui a changé son cœur, changé sa vie, qui a comblé le manque qui était en lui. Il a fait de lui son enfant bien-aimé. Il sait qu'il est l'enfant du Père. Alléluia. Béni soit Dieu pour cela. « Il y a si longtemps que je suis avec vous, a dit Jésus, et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Apprendre à se connaître, c'est le travail de plusieurs années pour nous-mêmes. On se connaît jusqu'à certaines limites. On s'étonne parfois dans le bon sens, en fonction des circonstances. On se dit « jamais j'aurais pensé réagir de cette manière. Ben, » ça a été plutôt positif. Et puis à certains moments, on se dit « là, oui, on est plutôt sorti de nos gonds. » plus vite que prévu, elle dit « Ah, là, je ne pensais pas, par contre, être comme ceci ou comme cela. » Apprendre à se connaître, apprendre à, en quelque sorte, dompter sa propre nature, s'accepter tel que l'on est, connaître un proche. Nous savons que la relation d'un enfant avec son père terrestre évolue dans le temps. Certains, vous y avez même cru, peut-être un moment, vous avez cru que vous étiez vraiment un héros. C'est pas vrai, les pères? Vous avez cru que vous étiez un héros. Parce qu'il n'y a pas plus fort que papa. Il n'y a pas plus grand que papa à certains âges. Il n'y a pas meilleur que papa. Personne ne parle mieux que papa. Personne ne fait les choses mieux que papa. Ah oui, enfin, ça ne dure pas si longtemps que ça. Avec le temps, il y a un certain doute qui s'installe. On ne sait pas pourquoi, en grandissant, l'enfant émet quelques doutes sur ses extraordinaires capacité de leur père. Et puis, ça devient même parfois, on remet carrément tout en question. Papa, tu n'as rien compris. Rien compris. Il faut que je t'explique la vie à un certain âge. Alors, si on part de haut, vous savez, ça redescend vite. Et puis, avec le temps et les années, il semblerait, quand la relation est bonne, que ça revienne un petit peu plus, sans en arriver au héros, mais à quelqu'un qui accepte avec le temps de s'asseoir, de converser avec son père et voire même d'oser demander des conseils à son père quand la relation est bonne. Comme je disais aux enfants ce matin, voilà, n'oubliez pas de dire bonne fête à papa, mais je leur ai dit aussi, de toute façon, je suis votre père préféré. Hein. Ça, vous ne pouvez pas le contester. On est forcément numéro un. Dans toutes les citations que nous avons, plusieurs ont écrit, bien sûr, à propos des pères, ce qu'un père peut faire de plus important pour ses enfants, c'est d'aimer leur mère. Un autre a dit « Le temps qu'un homme comprenne que son père avait sans doute raison, il a généralement un fils qui pense qu'il a tort. » Quelqu'un a dit quelque chose de très positif envers son père. « Dans une prochaine vie, papa, j'aimerais te reprendre comme père. » Ou alors un autre qui a dit « Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. » C'est Pythagore qui a dit ça. Alors, connaître le Seigneur et connaître l'amour du Père, on sait aussi que nous avons des phases dans la vie chrétienne. Il y a celle de ce qu'on appelle la découverte initiale, où on a l'impression que c'est le paradis sur la terre, n'est-ce pas ? Jésus est venu révéler l'amour du Père, et quand on a compris l'amour de notre Père céleste, alors on est bouleversé, on se dit même, pour ceux qui ne l'ont pas connu, étant petits, qui n'ont pas eu d'enseignement, étant petits concernant le Seigneur, on se dit, mais comment se fait-il que personne ne me l'a dit avant ? Comment se fait-il que personne n'est venu me témoigner de cet amour ? Il a fallu que j'attende 40, 50, 60, 80 ans pour qu'on me dise cela et que je réalise l'amour de ce Père céleste. C'est l'apôtre Jean qui dira, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Amen. L'apôtre Paul lui écrira, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, « Abba Père, cher Père !» Alors cela nous fait penser à cette parabole du fils prodigue que, bien sûr, vous connaissez, c'est le père qui a eu des difficultés, non pas avec son fils, mais avec ses fils. Et si quelques parents ici parmi nous ont quelques difficultés de temps en temps avec leurs enfants ou de manière plus récurrente, sachez que notre Père Céleste a aussi régulièrement des soucis avec ses enfants. Je dis, ah oui, ça c'est vrai, il y en a des durs. Oui, mais parfois on est dans le lot aussi. On est dans le lot les uns les autres. Il y a le fils qui est parti, et vous le savez, vivre sa vie loin de la maison du Père alors qu'il était là, avec toutes les conséquences qu'il y a eues dans sa vie. On pourrait parler de celui qui a bien commencé sa vie en Dieu et qui, d'un seul coup, on ne sait pas ce qui lui passe par la tête, est-ce une crise d'ado, un retardement ou quoi que ce soit, mais on quitte en quelque sorte la maison du Père pour vivre notre vie. Mais il y a un point clé dans cette histoire, c'est lorsqu'il va à un moment donné réfléchir et se souvenir de la maison du Père. Et moi je trouve que ce passage est un très grand encouragement pour tous les parents qui peut-être sont aujourd'hui en difficulté avec leurs enfants, qui se soucient de l'avenir de leurs enfants, de l'âme du cœur de leurs enfants, qui se disent mais il faut que mon enfant revienne à la maison du Seigneur, il faut qu'il revienne dans la présence de mon Dieu, parce qu'il y a dans le cœur de cet enfant quelque chose qui a été semé, ce qu'on appelle la semence incorruptible qui est dans son cœur, parce qu'à un moment donné, il va se souvenir de la maison du Père. Alors qu'il est loin de tout cela, nous savons que notre Dieu est le Dieu qui redonne vie à la vallée des ossements desséchés, vous le savez dans la parole de Dieu, et bien c'est ce même Dieu qui est celui qui redonne vie à celui qui peut-être est éloigné pour un temps. La semence est toujours dans le cœur. Et à partir du moment où cette personne commence à rentrer en elle-même, commence à réfléchir, commence à se souvenir de ce qu'elle a entendu, étant peut-être petit ou plus grand, eh bien cette semence reprend vie à ce moment-là. Et quand bien même il y aurait une séparation, quand bien même la personne serait loin du Seigneur, le Père l'accueille les bras grands ouverts et le reçoit à nouveau, le rétablit dans la maison, que Dieu soit béni. Alléluia. Je crois que plusieurs d'entre nous ont fait cette expérience parmi nous. Et nous sommes encore pleins de confiance que peut-être pour celles et ceux qui souffrent de voir des enfants, peut-être des parents, des amis, qui peut-être pendant un temps ont marché avec le Seigneur, sont loin de Dieu. Nous avons cette confiance que cette semence incorruptible, elle est dans leur cœur et qu'il ne leur suffit que d'un instant pour prendre conscience que Dieu est vivant, d'un instant pour prendre conscience que la vie du Seigneur est là. Et s'ils se tournent vraiment vers le Seigneur, cette semence prendra vie. Alléluia. Béni soit Dieu pour cela. Et puis il y a l'autre fils. Vous savez, ce fils qui est dans la maison, le fils qui ne rate pas une réunion, mais qui manifestement ne connaît pas le Père. Il est là. Il connaît beaucoup de choses, il connaît l'intendance de la maison, il sait où chaque chose se trouve dans la maison, il connaît le rythme de la maison, mais il ne connaît pas son père alors qu'il est là auprès de lui chaque jour. Alors c'est un enfant qui est aigri, c'est un enfant qui est en colère, c'est un enfant qui cherche à gagner la reconnaissance de son père, qui cherche au travers de ce qu'il fait, de gagner l'amour de son Père. Et voyez-vous, nous n'avons pas besoin d'essayer de gagner l'amour de notre Père. Le Père nous aime. Le Père vous aime. Il n'y a pas besoin d'avoir une étiquette de reconnaissance particulière sur les uns ou sur les autres. Dieu vous connaît parfaitement. Et il vous aime particulièrement. Et son désir, comme Jésus a pu dire à Philippe, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Alors que nous puissions les uns les autres comprendre et saisir que le Seigneur veut se révéler à chacun d'entre nous. Vous savez, c'est ce qui s'est passé pour Pierre. Lorsqu'il lui a révélé, il a dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui t'a révélé cela. Et ô combien le Seigneur veut se révéler à chacun d'entre nous. Que nous puissions apprendre simplement à découvrir et encore plus être portés par l'amour de notre Père céleste. Nous sommes appelés aussi à grandir dans l'amour du Père. La parole de Dieu nous dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est l'enseignement de Jésus. C'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors que nous suivons les voies du Seigneur, non pas en lui disant, tu vois Seigneur, cette semaine j'ai réussi à maîtriser. Donne-moi un bon point, non. Mais Seigneur, j'aime tes voies. Seigneur, j'aime ta parole. Je sais qu'à certains moments c'est compliqué de vivre tout, Seigneur, ce que tu souhaites, mais Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Aide-moi, Seigneur, dans ce chemin. Aide-moi dans ce chemin. Et croyons que Dieu le fait. Nous sommes appelés à aimer sa parole parce qu'elle est la vérité. Elle est pour nous une sauvegarde dans notre vie. Nous savons que si nous suivons le Seigneur, nous sommes heureux. Mais lorsque nous nous éloignons de ses voies, oh, si ça peut paraître pour un temps bien, l'illusion s'estompe rapidement, pour laisser la place à la culpabilité, et parfois même bien au-delà de cela. La volonté du Père, et Jésus a enseigné sur la volonté du Père, quelle est-elle ? La volonté du Père, c'est qu'aucun ne se perde. Voilà ce qui est dans le cœur du Père. Ce n'est pas de la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qui ne se perde un seul de ses petits. On est dans le contexte où Jésus parle d'enfants, mais nous savons que, bien entendu, il s'agit de tous les êtres humains. Dieu, le Père, veut qu'aucun ne se perde, même s'il sait que malheureusement, beaucoup se perdront. Mais il est dans sa volonté qu'aucun ne se perde. Il me semble que C'est aussi ce qui doit nous animer dans notre vie, dans nos assemblées. Nous devrions également avoir ce même désir de travailler dans ce but qu'aucun ne se perde. Et lorsque un manque à l'appel, de dire « Seigneur, bien sûr, tout ne dépend pas de nous, mais il y a parfois des choses que l'on peut faire. Il y a des démarches que l'on peut faire. Nous ne pouvons pas prendre toutes les décisions, bien sûr, pour tout, mais il y a des choses que l'on peut faire. Que Dieu nous aide à faire ce que nous avons à faire, afin qu'aucun ne se perde. » Jésus a dit au Père que ta volonté soit faite. C'est dans la prière du Notre Père. Comprendre, discerner la volonté de Dieu dans notre vie et puis apprendre à la vivre. Nous savons que Jésus lui-même a dû expérimenter cela, non pas dans un temps facile, mais dans un temps difficile, dans le jardin de Gethsémané, où il a pu dire « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. » Alors, qu'est-ce que le Père veut ? Que veux-tu, Seigneur ? Que veux-tu dans ma vie ? Que veux-tu, Seigneur, de mes pas ? Que veux-tu de mon existence ici-bas ? Seigneur, je veux. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous de trouver cette voie, à chacun d'entre nous de nous adresser à notre Seigneur et Sauveur, à chacun d'entre nous de nous mettre à disposition de notre Seigneur pour dire « Seigneur, me voici tout simplement ». Dieu cherche également des adorateurs en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande, dira Jésus. Dieu cherche cela. Le Père cherche des adorateurs. Oh, bien souvent, nous sommes là avec toute une liste de demandes, et c'est bien normal. La vie ici-bas fait que tout ne se passe pas comme on le souhaiterait. On a beaucoup de questions, on a beaucoup de fardeaux parfois qui sont là, que l'on traîne. Mais si à certains moments on pouvait apprendre à dire « Je laisse cela pour aller adorer mon Dieu et mon Père. Je laisse cela pour aller auprès de celui qui mérite, Seigneur, cette adoration. » Et le Seigneur dira, bien, c'est en vérité. Et c'est avec de toute notre aide, de tout notre cœur, de toute notre pensée que nous voulons adorer notre Seigneur, notre Dieu, notre Père. Je crois que beaucoup de choses seraient davantage lissées si nous apprenions davantage à aller dans la présence de notre Dieu. Si nous apprenions davantage... Il y a des choses qui sont pour nous des montagnes qui deviendraient des petites collines d'un seul coup. Il y a des choses qui deviendraient impossibles et lorsque l'on est dans cette présence de Dieu, alors nous savons que l'impossible peut devenir possible. Notre foi est tellement encouragée. Nous sommes tellement renouvelés, nous sommes tellement vivifiés que à ce moment-là, ce qui pour nous paraît compliqué devient beaucoup plus simple. Alors que Dieu nous aide à être de ses adorateurs. Le Père demande également des vies qui sont en quelque sorte abouties. Et s'il y a bien un verset où nous pouvons dire « bien, je crois que ça va être tellement compliqué à le mettre en pratique, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Alors là, la barre est extrêmement haute, bien sûr, mais il est question ici d'un aboutissement, de vies qui sont matures dans le Seigneur. Alors il y a pour cela tout ce que Dieu voit, tout ce que Dieu retient dans notre vie. Il voit la façon dont nous apportons, par exemple, nos offrandes. Dans le sermon sur la montagne, Jésus en parlera. Il dit « Bien, tu donnes en secret, parce que ton Père te le rendra ». Voilà ce que dira Jésus. Il dira de le faire de la façon dont nous le faisons, ce n'est pas toujours dans la quantité, mais avec quel état de cœur. Seigneur, avec tout ce que je t'ai donné depuis toutes ces années, je crois que j'aurais pu me faire construire une maison. J'espère que tu as retenu ça dans le ciel. Mais Seigneur, je suis tellement heureux de participer. Tu m'as tellement béni que pour moi, c'est rien. C'est simplement l'expression d'une louange. C'est simplement l'expression d'une reconnaissance envers toi. La façon dont nous prions, le Seigneur nous le dit aussi. Vous avez des personnes qui vous font l'étalage de leur qualité de vie de prière. Ce n'est pas vraiment nécessaire. L'important, c'est ce qui se passe entre Dieu et vous. Et la Bible nous dit que Dieu, le Père, nous le rendra. Alléluia. nous occuper également des affaires de notre Père. C'est Jésus qui a pu dire à 12 ans, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Imaginez les parents, là, qui le cherchaient partout. Et la réponse de ce jeune homme de 12 ans, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Waouh, là, les parents, ils ont dû être décoiffés d'un seul coup. Mais ça devrait être aussi notre désir tout au long de notre vie. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père céleste. Il faut que je m'occupe de ce qui est sur le cœur du Père. Nous vivons de façon extrêmement égoïste. Bénis-moi, voilà Seigneur ma liste, voilà mes petits bobos, et voilà aussi toutes mes incompréhensions. Vois comment telle personne m'a parlé, Seigneur. Bon, bénis-la quand même, et bon, il faudrait quand même qu'à un moment donné, on arrive à tourner sur un autre type de cercle, vous voyez ? Et qu'on puisse dire, Seigneur, me voilà, me voici, Seigneur. Je veux moi aussi, Seigneur, accomplir la volonté de mon Père céleste. Le Père céleste demande aussi l'exercice de ce qu'on appelle du pardon, de la miséricorde. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Dans la parole de Dieu, le Père est appelé le Père des miséricordes. À tel point que Jésus a enseigné ceci, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et écoutez bien ce qui est écrit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est toujours facile de bénir ceux qui nous bénissent, d'être amis avec ceux qui sont amis avec nous. Mais lorsque quelque chose est en travers de la gorge, lorsqu'on est accusé faussement, et j'en passe encore, de dire « Seigneur, je ne veux pas juste les bénir parce que c'est écrit, mais je veux le faire vraiment. Bénis-les. Bénis-le. Bénis-la, Seigneur. Et je veux même te prier pour son cœur, pour son âme, afin que ce ne soit pas une personne qui devienne comme ce fils, vous savez, aigri, comme ce fils qui était là et qui ne connaissait pas, non, que ce soit une personne qui simplement réalise peut-être la voie sur laquelle il est ou elle est. Et peut-être si nous sommes nous-mêmes l'offenseur, parce que, vous savez, on est toujours des victimes dans la vie. C'est toujours les autres qui font les choses, mais quand on regarde bien de plus près, parfois on n'est pas tout à fait innocent. Alors, on n'est pas toujours que des victimes. Il y a des moments où nous avons été l'agresseur aussi. Et comprendre que nous devons aussi, certainement, à certains moments, eh bien, faire ce que la Bible nous demande. Si tu as quelque chose contre ton frère, contre ta sœur, tu laisses là ton offrande et tu vas d'abord te réconcilier avec ton frère et ta sœur. Et je crois que le Père est honoré. Parce que c'est son cœur à lui. Il l'a tellement fait envers nous. Je ne comprends pas l'amour de Dieu à un tel point que, avec tout ce qu'on lui a fait, toutes les promesses qu'on lui a faites, que l'on n'a pas tenues, il arrive encore à nous accueillir les bras grands ouverts, que nous soyons fils de notre Père céleste. Nous sommes appelés à garder confiance en lui dans nos besoins, que ce soit pour notre quotidien, la nourriture, le vêtement, le travail et autres. La Bible nous dit qu'il sait que nous en avons besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Notre Père céleste est celui qui a un héritage pour chacun d'entre nous que nous avons du mal à mesurer. L'apôtre Paul écrira, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Jacques dira, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voilà, en très gros résumé, qui est notre Père céleste. Et nous l'aimons. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. il n'y a aucune comparaison à faire entre un Père terrestre et le Père céleste. Parce que notre Père céleste est parfait. Et nous voulons encore continuer à connaître son amour, continuer à découvrir ses voies, à l'honorer de tout notre cœur. Le Père n'est pas, notre Père céleste n'est pas un Père absent. Ce n'est pas un Père qui garde rancune, ce n'est pas un Père fouettard, ce n'est pas un Père qui abandonne quand on a besoin de lui. Ce n'est pas un Père qui ne connaît que la punition. Mais nous sommes appelés encore davantage à le découvrir les uns et les autres. J'aimerais que prier avec vous ce matin. Afin que nous soyons encore les uns et les autres émerveillés par l'amour de notre Seigneur. Ça fait combien de temps que l'on n'a pas été touché par son amour? Combien de temps peut-être que on n'a pas réalisé son cœur et ses voies? Combien nous voulons bénir notre Père céleste pour sa miséricorde, pour sa grâce, pour ses plans parfaits. Et nous voulons lui dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur. Nous voulons lui dire encore ce matin, me voici. Nous voulons lui dire, peut-être ce matin, quelqu'un a besoin de lui dire, je viens à toi et je reviens vers toi. Quelqu'un a peut-être un problème à résoudre avec son Père céleste et a besoin de laisser cette semence incorruptible reprendre vie. Certains parents ont peut-être perdu courage dans la relation avec leurs enfants et voudraient encore demander l'assistance de notre Seigneur ce matin. Peut-être êtes-vous des enfants en difficulté avec votre père ou votre mère terrestre. C'est peut-être compliqué pour vous de pardonner, d'honorer vos parents comme le dit la parole de Dieu. Mais ce matin, vous pouvez demander à votre Père céleste de venir à votre aide et votre secours. Si c'est votre cas ce matin, je vous inviterai à vous lever à votre place. J'aimerais prier avec vous pour ceux qui ont besoin de reprendre la main du Père céleste, de ceux qui ont besoin de revenir vers ce Père céleste, de ceux qui ont besoin de demander peut-être secours au Père concernant leur vie, leurs propres enfants, leurs propres parents. Il y a des contextes tellement compliqués. Mais j'aimerais ce matin encore vous inviter afin que ce Dieu de toute consolation, ce Dieu de toute grâce, eh bien, répande sa vie sur vous. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons te prier pour nos bien-aimés, afin, Seigneur, que tu étendes ta main sur eux. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur, dans leur vie. Je veux te prier, Seigneur, encore de te révéler dans leur cœur. Je veux te prier pour ceux qui, peut-être ce matin, prennent cet engagement de revenir à toi de tout leur cœur, de ne pas être de ces fils qui passent à côté de l'amour de leur Père céleste. Je veux te prier, Seigneur, encore ce matin, que tu aides dans ces relations parents-enfants, enfants-parents. Seigneur, tu es celui qui ramène le cœur, Seigneur, des parents vers les enfants et des enfants vers les parents. Nous te remercions, Seigneur, de la bonne nouvelle, de la parole, Seigneur de Dieu, de l'Évangile, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ton cœur qui est répandu envers nous. Je veux te prier, Seigneur, que tu redonnes courage, Seigneur, à ses parents, que tu les aides à être des intercesseurs fidèles. Quand bien même ils ne voient rien, Seigneur, pendant des mois et des années, Seigneur, arme-les de courage. Arme-les, Seigneur Jésus, de cette persévérance. Aide-les, Seigneur, à avoir les bonnes attitudes chaque fois qu'ils sont en contact avec les enfants ou les parents, Seigneur Jésus, dans ta grâce. Seigneur, merci, Seigneur, pour ton œuvre. Je te prie, Seigneur, pour celles et ceux qui ont besoin, Seigneur, d'accorder un pardon particulier dans leur vie vis-à-vis des parents ou des enfants. Seigneur, que ta grâce, Seigneur, opère ce matin. Au nom de Jésus, je t'en prie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.